redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 2. Chronique numéro 5. Y a-t-il une patate frite dans la salle ? Confession d'une junkie. Moi, Hélène P., 31 ans, junkie persécutée. Je le dis maintenant, ma vie est un enfer. Je circule coupablement d'un stand de patates frites à l'autre à l'insu de Louise Lambert Lagacé, la nuit, quand tous les chats sont gris et que personne ne peut me prendre la main dans le sac, gras, de patates. À partir de 23h, j'entre dans la clandestinité. J'ai repéré les meilleures patates frites en ville et mon réseau me mène du Montreal Pool Room de la rue Saint-Laurent jusqu'à Bien Bon, coin Duluth et Saint-Denis, en passant par l'Express de l'autre côté de la rue, stand de patates très in et de luxe. Inconvénient du luxe, il n'y a pas de take-out, les sacs bruns Kraft étant peu compatibles avec ce genre de décor. La mort dans l'âme, je suis régulièrement obligée de suivre mes amis normales dans des restaurants végétariens, chinois ou japonais, endroit d'expiation de mes péchés de chair. Ou d'écouter leur sermon sur la montagne de mes déchets toxiques en attendant de me venger chez McDonald's ou chez Colonel Sanders. L'équilibre alimentaire m'angoisse. Les calories me rendent folle. Les hydrates de carbone me dépriment, les vitamines me harcèlent. Je ne suis plus capable de réciter l'alphabet sans faire de l'urticaire. Et les minéraux me narguent. As-tu assez de fer ? Mange des épinards. Jaillissent. Manques-tu de potassium ? Élimines-tu ? Mange du tofu. Ça goûte rien. Hypoglycémie, cancer, hypertension, embonpoint, diabète, le cœur grec des maladies de la malbouffe hurle dans ma conscience et je me sens comme Gilbert Bécaud, accusé d'avoir volé l'orange. En fait, je mène une double vie. Je mange des pommes parce que c'est bon pour la santé et je les fais descendre avec un bon verre de coke tiré de mes 26 onces, 750 ml, quotidien, acheté au dépanneur le plus loin parce que le dépanneur du coin de la rue vend des mauvais crus qui goûtent le Pepsi. C'est bon pour ma santé, ça me fait marcher. La base de mon alimentation est la tranche de pain Weston que je couvre de toutes sortes de matières. J'ai le sens de la hiérarchie, je n'ai pas dit de nourriture. Selon l'inspiration du moment. Cheese Whiz, mayonnaise, Miracle Whip, beurre de peanut. Les pâtes et la sauce tomate sont la moitié de ma vie. Les patates frites, l'autre moitié. Les pizzas, hot dogs et hamburgers, l'autre moitié. Et toutes les sortes de viandes, connues et inconnues, l'autre moitié. Ça fait quatre moitiés ? Ce n'est pas trop pour une junkie authentique. Je suis une grande carnivore. Je mords, je déchire et j'aime ça. On m'a offert à gros prix de remplacer le lion de la métro Goldwyn-Mayer sur les écrans, mais j'ai dit non, je préfère rester anonyme. Je fuis les salades et le foin qu'on a tendance à mettre dans les assiettes depuis quelques années. Aucune consistance intéressante là-dedans. Je vais même jusqu'à me manger la peau des doigts. Mais ça, c'est psychologique, paraît-il. Même si moi, je prétends que c'est hautement gastronomique. Un fast-food à portée de la main. En fait, je me mange les doigts depuis que j'ai des dents et depuis que la Vénus de Milo est l'une de mes héroïnes. Elle a tout bouffé, elle, jusqu'au coude. Quand vous saurez que je n'ai que 10 livres en trop, que je n'ai pas de bouton dans la face et que je n'ai pas encore muté, vous comprendrez que je ne m'en sors pas trop mal et que je serais même assez bien dans ma peau si Louise Lambert Lagacé n'existait pas, ainsi que quelques-unes de mes connaissances. Comme mes amies normales, je vais mourir. Non pas en bonne santé, comme elle, non pas de malnutrition, comme vous l'arrière-pensez, mais d'épuisement à force de fuir la surinformation, Louise Lambert Lagacé et la culpabilité. Caféino Woman, Cocaïno Woman et Nicotino Woman en plus. Je ne me ferai certainement pas incinérer, j'aurais trop peur de faire sauter le crématorium ou de polluer l'air plus qu'il ne l'est actuellement avec tous les déchets toxiques que je contiens. Et tant mieux, même les vers ne voudront pas de moi. Hélène P., mai, juin 1983.
Alors, on était un petit groupe, là, quelques-unes, on se voyait régulièrement, Nicole Boudreau, moi, Hélène, Monique Simard. Bon, on allait manger au Café Chérié, puis Hélène prenait des frites. Moi, j'associe les frites du Café Chérié à Hélène, c'était indissociable. Alors, on allait, on se voyait peut-être une fois par saison, là, puis on réinventait le monde. Tu sais, là, on parlait de tout et de rien, puis on réinventait le monde, puis on avait des fous rires, puis on avait des grosses discussions, puis c'était très, très agréable.
Thank you. chronique numéro 6. Y a-t-il une chronique dans la salle ? Non. Je suis vexée. Mes patronnes de La Vie en Rose sont en train de m'enfermer dans mon rôle de chroniqueuse comique engagée pour dire n'importe quoi, et moi, je veux écrire de beaux grands textes bouleversants. Francine Pelletier est rendue qu'elle me présente à du monde que je ne connais pas en disant « c'est elle, la patate frite ». Quand même, moi, si timide et effacée. Cette affirmation gratuite n'engage que la responsabilité de son auteur. Je considère que je suis brimée dans mon rôle de future écrivaine bouleversante et je dis que les femmes de La Vie en Rose, toutes féministes qu'elles soient, ont nui à mon avancement en création en ne me demandant pas d'écrire une nouvelle pour le numéro d'été. En guise de protestation, j'ai décidé d'en écrire une quand même en changeant mon style habituel pour ne pas être reconnue. J'ai adopté pour l'occasion le style « nouvelle écriture » qui sied si bien à certaines revues littéraires que je ne nommerai pas ici afin d'éviter les attentats. Glissement progressif d'une fourmi dans une margarita. Importance du glissement progressif d'un alcool vert dans un plaisir margarita égale tequila plus citron plus sel et ou fourmi. E égale MC2. Énergie. Boire une fourmi croquante ou non, boire malgré et à cause, pour et avec, mais où donc, écart ni hors. Grammaire délavée dans des centenaires javelisants, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Prendre un petit coup dans ses mains, c'est agréable. Lancinance, palpitance, artériosclérose des artères d'une ville autour d'une terrasse. Quelle terrasse, quelle margarita, quelle fourmi, cul-de-sac. Prise en charge d'une fourmi par un estomac et ou par des jambes. Des fourmis dans des jambes. Fourmillement des sucs gastriques et ou des muscles, digestion ou non. Une fourmi flottait dans une margarita quelque part en même temps qu'un cerveau et quelques idées, magma, modification. L'année dernière, à la Barbade et ou à Hiroshima, Duras dirait « tu n'as rien vu dans ta margarita ». Un matin de juillet, était-ce l'année dernière, une femme ne pensa pas à la fourmi qu'elle avait avalée la veille quand elle tira la chasse d'eau. Elle était devenue anonyme dans les alcooliques. Anonyme Pedno, juillet-août 1983. Chronique numéro 7. Y a-t-il une puce dans la salle ? Périple d'une roche dans un nombril. J'ai mis une roche dans mon nombril. C'est une roche lisse, douce, brun chocolat, avec de petites taches subtiles qui n'ont pas l'air de taches, mais qui effleurent quand même sa surface comme le feraient des taches. Je suis à Orly avec cette roche dans mon nombril. Je l'ai mise là intentionnellement, non par un accès soudain de folie, mais dans un mouvement qui allait de soi, de résistance ou de protestation, peu importe, parce qu'il était immoral de laisser la Méditerranée derrière moi pour plonger dans un aéroport. Je ris toute seule. L'hôtesse au comptoir de Warder pense que je suis de bonne humeur parce que je rentre. Erreur. Elle ne peut pas imaginer que c'est parce que j'ai une roche dans mon nombril et que je ris du bon tour que je suis en train de leur jouer à elle et à toutes les personnes que je croise. Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui a une roche dans son nombril ? Franchement. L'hôtesse contemple mon billet. Si elle pensait subitement que je pouvais avoir une roche dans mon nombril pendant que je lui parle, elle serait obligée de quitter son costume bleu et son emploi pour cause de déviation ou de faire comme si de rien n'était. Elle ne prendrait jamais le risque de penser jusque-là. Un doute m'effleure. Suis-je en train de faire un égo trip ? On dit partout que le nombril a quelque chose à voir dans ce genre de trip. Je suis en train de traverser l'ère technologique, si apparente dans les aéroports, avec une roche dans mon nombril. Je me demande si le détecteur de métal va sonner quand je serai obligée de passer à travers pour me rendre à l'avion. Ma roche contient peut-être des substances qui peuvent affoler les détecteurs électroniques, qui sait ? Peut-être même des substances radioactives ? Je ris encore plus. Il y en a qui ont des pierres dans le foie ou dans les reins, alors je peux bien en avoir une dans le nombril. Je me demande à combien de puces électroniques correspond le volume de ma roche. 25, 50, 100 ? Serais-je aussi désinvolte si je transportais 100 puces électroniques dans mon nombril ? Je ne crois pas. Je me sentirais une responsabilité que ma roche ne m'oblige pas à avoir. Elle ne m'oblige à rien d'autre qu'à être morte de rire dans un aéroport un jour de juin 1983 et à me souvenir de la Méditerranée. C'est facile, ça fait des petits frissons au bon endroit. Ma roche contient l'histoire du monde. Je peux imaginer qu'elle contient un fossile, le chaînon manquant peut-être, ou qu'elle est un morceau du bras droit de la Vénus de Milo, transporté jusqu'en Italie par un marin grec, sans obligation de vérification scientifique. Y penser suffit. Les puces, elles, peuvent contenir des millions de données scientifiquement objectivables. Sur un millimètre carré de surface, je pourrais transporter dans mon nombril les deux annuaires de téléphone de Montréal, blanc et jaune, l'encyclopédie Britannicus au complet, la Grolier, la Quillet, la cuisine raisonnée et toute l'information pesante qui empêche de flotter. Me voyez-vous en train de me promener avec l'œuvre complète de Victor Lévy-Beaulieu dans mon nombril ? Ce jour-là, je décide officiellement, en mon fort intérieur, que les puces électroniques ne sont pas faites pour les nombrils, que ce n'est pas leur place vu qu'elles ne sentent ni la Méditerranée, ni le sel, ni l'amande poivrée, ni le café, ni la sueur, ni la peau, qu'elles ne goûtent rien et ne génèrent même pas de frissons. Probable qu'on ne peut même pas les prendre dans ses mains trop longtemps sans risquer de les oxyder, capricieuse. Quand on pourra en ramasser sur les plages, au soleil, je réviserai ma position. En attendant qu'elles restent dans l'ère technologique où elles peuvent briller en paix. Je n'en veux pas dans mon nombril. Post-scriptum. Celles et ceux que l'expérience intéresse et que le nombril incommode peuvent remplacer le nombril par tout orifice équivalent, succès garanti à tout coup. Septembre-octobre 1983. Chronique numéro 8. Y a-t-il une langue dans la salle ? Syndiquer ou se syndiquer ? Mémo à M. Yvon Charbonneau, président de la CEQ. Cher monsieur, je suis votre employé. Il faut dire employé et non pas numéro. Depuis 12 ans, et comme je n'arrive pas à vous voir en personne, je vous envoie un mémo par le courrier interne comme on jette une bouteille à la mer. Je suis débordé de travail. Il faut dire travail et non pas lourde tâche, à cause des excès de langage de vos syndiqués qui mélangent toutes les expressions disponibles en français pour en faire un salmigondi syndical. Il faut dire salmigondi et non pas assemblage disparate et incohérent, insensé, truffé d'erreurs grossières et ou de glissements de sens importants. Il faut dire glissement et non pas déraillement. Je vous livre ici quelques observations que j'espère pertinentes. Il faut dire hôtel de passe et non pas table de négociation. Il faut dire « nous avons trop bu hier soir » et non pas « les relations s'enveniment ». Il faut dire « hey les gars » et non pas « camarades ». Il faut dire « indéfrisable » et non pas « permanente ». Le mot « tonnette » n'est pas accepté. Il faut dire « grève » et non pas « trêve ». Il faut dire « marivaudage » et non pas « maraudage ». Il faut dire « simplifier toute l'affaire » et non pas « dégraisser les appareils et les structures ». On dégraisse un bouillon ou un rôti. Il faut dire « résoudre un problème au plus vite » et non pas « se pencher sur une question ». Plus la question est basse, plus les chances de ramper sont grandes. Il faut dire « les patrons des syndiqués » et non pas « les instances syndicales ». Il faut dire « il faudrait bien savoir où on s'en va » et non pas « clarifier notre position ». Il faut dire « bateau du chef » et non pas « leadership ». Ces quelques remarques étant dites, pensez à nos jeunes qui, déjà, ne sont plus capables d'écrire notre belle langue française ordinaire. Imaginez-les en train d'essayer d'écrire votre langue. Ce serait l'ampleur d'une catastrophe nucléaire. De plus, si les syndicats sont aussi impopulaires, c'est peut-être que les gens ne vous comprennent pas. Vous inspirez-vous des nouvelles de Radio-Canada ? Si oui, ce n'est pas une bonne idée. Leur langue est un code complexe que seuls les initiés comprennent. Il faut dire « initiés » et non pas « journalistes ». C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour protéger l'information de la plèbe. Auriez-vous besoin de protéger le syndicat des syndiqués ? Je vous laisse sur cette profonde question. Il faut dire « profonde » et non pas « creuse ». Si la situation ne change pas dans les plus brefs délais, je devrais en aviser les hautes autorités. Il faut dire « hautes autorités » et non pas « élitistes ». De l'Office de la langue française du Québec qui, lui, est pris avec le même problème de langue au niveau du gouvernement. Il faut dire « pris » et non pas « pogné ». Cette nouvelle langue est cancérigène. Un nouveau terme circule d'ailleurs pour définir cette façon douteuse de faire dévier la langue française, l'alphabétise. Veuillez agréer, cher monsieur Charbonneau, l'expression de mes sentiments inquiets. Rosette Charrette. Il faut dire Rosette et non pas Pélagile. Agente d'information. Il faut dire agente d'information et non pas espionne. À l'OLFDLCEQ. Office de la langue française de la Centrale d'enseignement du Québec. Novembre-décembre 1983. Erratum. Contrairement à ce que certaines ont cru, Hélène Pedneau ne faisait aucunement allusion à Mme Rosette Côté de la CEQ en signant sa chronique de novembre du nom de Rosette Charrette. C'était le choix fortuit d'une chroniqueuse délinquante tout à fait ignorante des dossiers syndicaux. LVR. Chronique numéro 9. Y a-t-il un président dans la salle ? Histoire 2. Peut-on faire une guerre sans casser des œufs ? Eh bien oui. La preuve, cette conversation surprise dans une porte de réfrigérateur un soir de dégivrage. La lune était pleine. De guerre lasse, j'avais rangé le marteau, l'arrache-clou et le couteau à boucherie qui me servent normalement à casser les deux pieds de glace qui m'empêchent, à tous les deux mois, d'ouvrir la porte du congélateur. J'avais les bras morts et les mains gelées. C'était la défaite. Le désir de vivre m'ayant momentanément abandonné, je décidais d'opérer une retraite stratégique vers mon lit. La porte du réfrigérateur était entrouverte. Les chats, très angoissés à cause de la lune et de ma mauvaise humeur, rôdaient autour du lit, incertains, comme s'ils marchaient sur un terrain miné. J'essayais courageusement de faire redescendre la moutarde qui m'était montée au nez quand tout à coup, j'entendis des murmures. Saisi, je glissais sur la pointe des pieds jusqu'au réfrigérateur haï, je tendis l'oreille et je pris note de ce qui suit. Ici, pour le livre audio, il faut que je vous explique que s'ensuit un dessin dans lequel on a deux œufs, un symbolisé comme un homme et l'autre comme une femme, et que c'est cette discussion-là entre ces deux œufs qu'on est en train de lire. Donc, ça commence par l'homme. « Moi, mon rêve, c'est d'être une omelette aux fines herbes bien baveuse. » Elle répond « Ah, que ça fait petit bourgeois !»« Mais c'est le top pour un œuf. Aimerais-tu mieux finir anonymement dans un vague gâteau en boîte ?»« Certainement pas. Je rêve de finir en œuf à la coque. »« Quelle horreur ! Malmené dans l'eau bouillante !» Je voudrais être un œuf à la coque, cuit très, très, très longtemps et devenir dur comme du béton armé. Mais personne ne pourrait te manger. Justement. Alors tu servirais à quoi ? À une bonne tireuse. Pour assassiner Reagan. Note de la traductrice. J'ai bien envie de l'aider à réaliser son rêve. J'ai une casserole et un excellent tire-roche. Janvier-février 1984.
Avec Hélène, on peut parler de politique, on peut parler de féminisme, d'écologie. C'est une citoyenne, avec un cœur qui ne regardait pas à dépenses de cœur. Pour moi, c'est ça, Hélène. Puis je m'ennuie d'elle. Je peux juste dire ça. Parce qu'elle avait une façon de lire le pays, de lire les gens, de lire les événements.
Chronique numéro 10. Y a-t-il une banlieue dans la salle ? Chronique régionaliste ou Découvrez votre banlieue. Je sais très bien qu'on est toujours la banlieue de quelque chose ou de quelqu'un. C'est même une des choses que je sais le plus au monde parce que je viens de Jonquière et que, pour les gens du royaume du Saguenay, tout le reste du Québec est la banlieue. Le nombre de centres d'achat au mètre carré, la cathédrale de Chicoutimi et le mont Jacob en plein milieu de Jonquière sont des choses claires, objectives. Des preuves irréfutables. Montréal s'est créé une banlieue à elle juste pour se venger. Et Laval s'est annexé les Laurentides au grand complet, pensant que c'était les Rocheuses. Mauvais calcul, surtout depuis les autoroutes à 50 cents. Les Français, eux, bâtissent des « ceintures » autour de Paris et déménagent en « périphérie ». C'est normal. À cause de l'histoire, ils ont le droit d'employer des mots qui ont l'air de maladie mentale parce qu'ils sont supposés savoir ce qu'ils signifient. Et Paris est devenue la banlieue de New York celle de San Francisco celle de Paris, et les femmes celle des hommes, dont elles étaient en réalité les métropoles depuis toujours. Métropole est un mot moderne issu de la déformation de Mère-Poule à travers les siècles. Le syndrome de la banlieue peut jouer même dans les relations amoureuses. Je me suis déjà sentie en banlieue de quelqu'un, tellement cette personne avait le sens de la périphérie. Nous étions si nombreuses dans cette ceinture que nous avons pu fonder une métropole. Et qui s'est retrouvé dans la banlieue ? L'ancienne métropole. Bien fait. Il faut savoir que ça joue sur le mental et les mentalités de se sentir remorqueuse ou remorquée, dépendant de la couche de culture, de la langue ou de la grosseur de l'ego. Les souris de laboratoire et les statistiques l'ont prouvé à maintes reprises. Nous, la femme, avons du mal à nous sentir égaux. Encore moins égale, ce qui provoque chez nous le syndrome de la banlieue même quand nous habitons en plein cœur de New York. Nous n'aurons jamais le sens du gratte-ciel, ni celui du dîner d'affaires pour parler de golf, ni celui de brasser des 30 sous dans notre poche en nous balançant d'avant en arrière, la bedaine en avant et la tête haute, en pérorant des opinions bien arrêtées sur la situation économique lamentable et la manière de faire quand même de l'argent avec. C'est comme pour les lois. On a beau nous dire que c'est inutile, nous nous entêterons toujours à essayer de les comprendre en vue de les affronter, alors que le mieux, c'est de les oublier et de les contourner. En banlieue de nous-mêmes, des hommes, de la justice, du pouvoir, des chevaliers de Colomb et de la bourse. Et attention, une banlieue en cache une autre. Alors que nous reste-t-il à faire ? Entrer dans les Dames de Sainte-Anne ? Se tirer une balle dans la tête ? Croire dur comme fer au personnage de Denise Bombardier ? Fermer les yeux et penser à l'Angleterre ? Non. Plutôt mourir que de me tirer une balle dans la tête. Je préfère travailler ma métropole par en dessous, en ma double qualité, mais ne sont-ce pas plutôt des défauts, de femme et de banlieue. Et je caresse un grand projet pour régler une fois pour toutes le problème international dans la banlieue. Faire de la planète une ville unique qui porterait, bien sûr, le nom de Jonquière. Bleuette Pedneau, mai-juin 1984. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Lorraine Pagé et Marie-Claire Séguin. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Gros.